La maison de l'investisseur, l'émission qui vous explique comment développer votre patrimoine immobilier avec Stéphane Descartiers, président fondateur de la maison de l'investisseur sur Radio Immo.
Bonjour chers auditeurs de Radio Immo, bienvenue dans ce troisième numéro de la Maison de l'Investisseur pour m'accompagner, comme à chaque fois, notre spécialiste de l'investissement et de la mode, c'est important de le souligner, Stéphane Descartiers, fondateur de l'entreprise éponyme La Maison de l'Investisseur. Bonjour Stéphane.
Bonjour Charlotte.
Comment allez-vous?
Très bien, merci.
Tout de vert vêtu.
Oui, on est encore un petit peu dans la saison où on peut se permettre un petit peu de vert. Ouais.
C'est le printemps.
Oui, c'est le printemps.
Ça bourgeonne.
Voilà, c'est le printemps d'immobilier aussi, c'est bien.
C'est génial. Alors, comme chaque quatrième mercredi du mois à 10h10 précise, on se retrouve pour un point investissement. Alors, que vous soyez déjà investisseur, cette émission est clairement faite pour vous. Mais si vous songez à le devenir, c'est également une émission faite pour vous, puisque l'idée de cette émission, cher Stéphane, on le rappelle, c'est de rendre abordables des problématiques qui peuvent paraître un peu complexes, comme ça, vu de l'extérieur. Donc, n'hésitez pas surtout à nous suivre. Si vous avez des questions, à nous les poser via les réseaux. Quelle est la devinette du mois, cher Stéphane ?
Alors, c'est la devinette du mois relative au SCI. Donc, quand est-ce qu'il est intéressant de monter une SCI ? Quand est-ce qu'il n'est pas du tout intéressant ? Quels sont les pièges des SCI ? Les avantages aussi qui sont nombreux, en sachant qu'aujourd'hui, on va s'attacher uniquement au SCI à l'IR, à l'impôt sur le revenu, donc les SCI qu'on appelle transparentes.
Très bien. Eh bien, écoutez, moi, je vous propose qu'on se retrouve juste après ça pour en parler.
La maison de l'investisseur, la devinette du mois.
Alors effectivement, notre sujet, c'est les SCI. Comme vous l'avez précisé, Stéphane, ce sont les SCI assujettis à l'IR. Donc, on rappelle impôt sur le revenu. C'est bien ça ?
C'est bien ça.
Alors, il y a effectivement beaucoup, j'imagine, d'idées reçues sur la SCI.
De fausses idées reçues.
De fausses idées reçues. L'idée, donc, c'est de faire le point ensemble aujourd'hui. Est-ce que les Français affectionnent particulièrement la SCI, déjà ?
Oui, il y a une mode depuis une quinzaine d'années à peu près sur les SCI. Il y a plus d'un million d'SCI matriculés, donc c'est quand même énorme. Et alors, c'est parfois à bon escient, d'autres fois un petit peu moins. Il y a une mode, à un moment donné, tout le monde faisait des SCI parce que le comptable avait dit que c'était mieux, etc. Avec parfois, des gens font des SCI pour avoir des réductions d'impôts. On verra que ce n'est pas forcément le cas. Voilà, donc il y a des avantages, il y a de fausses idées, il y a des légendes urbaines sur les SCI, donc je crois qu'aujourd'hui on va essayer de faire la part des choses.
De débroussailler un peu tout ça. Et ouais. Comment vous expliquez le succès justement, qu'il soit d'ailleurs à bon escient ou pas, le succès des SCI ?
Alors le succès, il y a de vrais avantages pour les SCI, il y a des contraintes, on va les voir, mais il y a de vrais avantages. Le premier, c'est qu'on peut monter à plusieurs, en quelque sorte, pour acheter des biens plus importants qu'on ne pourrait le faire seul. Si vous voulez acheter un immeuble à 600, 800 000 euros et que vous avez une capacité d'endettement qui n'est que de 300, 400 000 euros, vous n'aurez pas d'autre choix que d'aller chercher un associé. Il y a beaucoup de cabinets, d'experts comptables qui investissent à plusieurs, notamment les associés, pour acheter leurs locaux, par exemple. Donc, ça permet d'augmenter sa capacité d'investissement et d'aller effectivement, grâce à l'effet de levier du crédit, de multiplier les capacités d'investissement par 3 ou 4. Donc ça, c'est quand même intéressant.
C'est pas négligeable.
Voilà, pour pouvoir monter sur des opérations plus importantes. Alors attention, c'est quand même... Il y a un point qui est très important, c'est que sur une SCI, dans l'immense majorité des cas, la banque va demander la caution personnelle de chaque associé. Donc, quand bien même votre quote-part d'investissement n'est que de 200 ou 300 000, sur un investissement à 800 000, vous êtes responsable, vous, de 800 000 euros de crédit. Donc, il faut quand même le faire avec des gens dont on est très proche et qui ont une solvabilité, a priori, qui soit correcte. Hein,
parce que vous engagez, voilà. Du coup, sur plus que ce que vous avez
voilà,
mis.
Voilà, tout à fait.
On est d'accord. C'est-à-dire qu'il y a une vraie solidarité financière entre les différentes personnes.
Entre les emprunteurs, surtout, en l'occurrence, oui, tout à fait.
Très bien. Donc ça, c'est notre point 1. Donc effectivement, ça permet de cumuler cette capacité de financement qu'une personne seule seul ne pourrait pas avoir.
Absolument.
Qu'est-ce qu'on a d'autre comme avantage?
Alors, on mutualise également on mutualise bien sûr les loyers, mais on mutualise aussi quand il y a des problèmes, quand il y a des travaux, quand il y a des impayés. C'est moins compliqué si on a plusieurs associés. À un moment donné, si on doit faire face à des difficultés, l'un des associés peut remettre au pot dans la SCI, comme on dit, peut effectivement faire des apports dans la SCI qui pourra récupérer par la suite à retour à meilleure fortune. Mais ça permet effectivement de pouvoir faire face plus facilement à des difficultés parce qu'on va être 3-4 associés. Donc on mutualise les problèmes qu'on peut rencontrer effectivement sur la vie d'une SCI et de son investissement locatif. Donc ça, c'est aussi un avantage.
Pour faire simple et pour l'image, ça fonctionne un peu comme une copro. Si j'ai de la toiture à refaire, on va diviser ça en fonction du nombre de copropriétaires.
Voilà, tout à fait. Pour une SCI, c'est la même chose. Ouais, c'est vrai.
Donc, deuxième avantage, de mutualiser ce qui n'est pas forcément très positif dans la balance financière.
Tout à fait. Lorsqu'on peut avoir des soucis, tout à fait.
Le troisième avantage.
Alors, le troisième avantage, c'est que ça peut amener une meilleure protection, notamment pour le chef d'entreprise. On peut mieux protéger son patrimoine pour le chef d'entreprise qui, par exemple, par ailleurs, sur ses affaires, peut avoir des difficultés à un moment donné, peut rentrer dans des problématiques de redressement judiciaire ou une boîte qui coule, etc. Si vous avez des bons statuts bien montés, et surtout, il faut être minoritaire, mais vous pouvez être minoritaire à 49%, mais avec des statuts bien montés, pas prendre des statuts sur Internet, faire des bons statuts par un avocat ou un notaire spécialisé. Mais avec des statuts bien montés, vous avez une protection du chef d'entreprise avec, par exemple, l'obligation d'avoir la majorité des parts pour vendre, ce qui fait que vos 49% à un moment donné de parts de SCI, elles sont insaisissables. Puisque même vos créanciers ne vont pas aller chercher, ne vont pas vous saisir vos 49%, puisqu'ils ne pourront rien en faire, puisque la vente ne pourra pas être effective du bien s'il n'y a pas la majorité donc des parts, par exemple. Ce qui fait que pour un chef d'entreprise qui risque de faire des mauvaises affaires par ailleurs, des biens détenus en SCI avec de bons statuts vont mieux le protéger face aux créanciers ou aux éventuelles personnes qui pourraient venir essayer d'aller gratter sur son patrimoine.
Donc, au regard de cet argument-là, Stéphane, vous m'arrêtez si je me trompe, c'est plus intéressant de monter une SCI au minimum à 3 qu'à 2, parce qu'à 2, j'imagine qu'il y en a toujours un qui a au moins 50 ou 51.
Oui. Alors, on peut être minoritaire, il faut être au moins 2, bien sûr, mais on peut mettre aussi ses enfants pour une part ou deux, etc. Voilà, on peut, dans le capital, effectivement, être minoritaire, il suffit de donner 51% à l'autre associé, mais voilà, ça peut se faire simplement avec deux associés. Ouais.
Donc, troisième critère, troisième avantage, cette insaisissabilité du bien. Bon, on l'a bien compris. Le quatrième.
Alors, le quatrième, c'est que on a plus de souplesse également quant à la vente des parts, notamment, et puis c'est moins cher, parce que si vous vendez des parts de SCI, c'est 5% de taxes plutôt que les frais de notaire. Mm-hmm. Et puis, quand on vend des parts de SCI, c'est pas une mutation, on ne passe pas devant le notaire, avec toute la lourdeur que ça comporte, et puis les frais de mutation notamment, qui sont quand même importants, qui sont de 8-10%. Donc c'est moins cher de céder des parts de SCI, puis c'est plus souple, parce qu'on peut faire ça sur un coin de table, sous un privé, on n'a même pas besoin de notaire, etc. Il suffit ensuite de publier au greffe le mouvement, effectivement, dans la SCI. Mais c'est beaucoup plus souple. C'est beaucoup plus souple et moins coûteux de revendre des parts, etc., sur une SCI qu'en nom propre, où il faut procéder à une mutation avec des frais beaucoup plus importants.
Donc, plus de souplesse. Et dernier point, on évite
l'indivision. Qui est le pire des systèmes, qui est le plus instable, puisque nul n'est censé rester en indivision. Même si vous êtes dans une indivision avec une personne qui détient une toute petite part, elle peut vous obliger à vendre. Donc ça c'est toujours effectivement un problème, l'indivision, il faut l'éviter à tout prix. Donc notamment pour des couples ni mariés ni paxés, il vaut mieux faire une SCI pour acheter, à part sa résidence principale, peut-être ça n'a pas grand intérêt, mais pour un investissement locatif notamment, il vaut mieux faire une SCI que d'être en indivision, effectivement.
On fera le point après, effectivement, parce que là, je rebondis sur la résidence principale et le fait qu'on entend beaucoup que pour l'héritage, si on a des enfants, ça peut faciliter les choses. Mais on fera
tout à fait. Pour les héritages, oui, c'est bien. Aussi pour les maisons de famille, notamment, ça peut être intéressant de conserver en SCI pour la ventilation des charges, etc. C'est plus intelligent. Ça peut être intelligent dans ce cas-là.
À quel public ça s'adresse ?
Alors, à tous ceux, effectivement, qui veulent, comme on le disait tout à l'heure, qui veulent avoir des investissements un petit peu plus ambitieux, typiquement, monter sur un immeuble à plusieurs importants. Beaucoup, les professions libérales qui veulent acheter leurs locaux et qui sont avec des associés, qui soient experts comptables, avocats, dentistes, sur les cabinets médicaux, il y a plusieurs professions qui peuvent utiliser des locaux, plutôt que de louer, d'investir à plusieurs en SCI, louer à son activité, donc ça c'est quand même pas mal, parce que vous êtes votre propre locataire, en tout cas, votre activité professionnelle est locataire de votre SCI, vous êtes à titre personnel, donc voilà, ça ce sont des montages tout à fait intelligent, intéressant, que beaucoup d'investisseurs ne se privent pas de faire. Également, effectivement, comme on le disait, pour ceux qui veulent mieux protéger leur patrimoine ou éviter l'indivision, là, ce sont des vrais intérêts tangibles qu'il ne faut pas négliger avant d'investir, notamment en SCI.
Alors, on a bien compris, du coup, les avantages. Vous nous avez balayé ce qu'ils comportaient. Maintenant, ce qu'on aimerait savoir, et ce qu'on dit peut-être moins, c'est quels sont les inconvénients de ce type de montage ?
Alors, il y en a des inconvénients, hein. Il y en a plusieurs dont on n'a pas forcément conscience et puis que parfois un petit peu, peut-être certains juristes ou avocats évitent de parler ou mettent un petit peu, parlent un petit peu rapidement, mais les inconvénients, ils sont quand même, il y a plusieurs inconvénients quand même majeurs, puis il y a de fausses idées aussi qui traînent sur les SCI. Alors, premier inconvénient, ça coûte quand même de l'argent, ça coûte de faire les statuts, l'enregistrement, etc., ça coûte quand même un petit peu d'argent, et puis c'est plus de paperasse également, c'est des déclarations.
Une enveloppe de combien à peu près, comme ça, à la louche ?
Ça tourne autour de 2000 euros, si vous voulez avoir des statuts qui tiennent la route, et puis les frais d'enregistrement, etc., c'est autour entre 1500 et 2000 euros, à part c'est vraiment des choses très compliquées, mais ça a quand même un coût, il y a plus de paperasse, il y a plus de déclarations, donc il y a quand même quelques inconvénients de ce type. Il y a des fausses idées aussi complètement qui traînent sur notamment la fiscalité, puisque certains vont vous dire « Ah oui, mais la SCI, c'est bien, on paye moins d'impôts ». C'est faux.
C'est vrai qu'on l'entend beaucoup.
Oui, c'est faux. Il n'y a aucun avantage fiscal de détenir des biens en SCI. Il y a juste éventuellement une petite décote sur l'IFI. Maintenant, parce que
l'ancien impôt sur la fortune,
l'ancien impôt sur la fortune qui est maintenant
qui démarre à partir de combien pour mémoire?
Alors ça se déclenche à partir d'1,3 million euros de patrimoine, mais on le compte à partir de 800 000 euros en gros.
D'accord. Donc c'est vite arrivé quand par exemple, vous parliez tout à l'heure des gens qui se mettaient en locaux en tant que professionnels, les dentistes, les avocats, ce genre de choses, ça peut vite arriver sur des locaux partagés.
Oui, étant entendu que l'IFI c'est sur le foyer fiscal. Donc si vous êtes copropriétaire d'un immeuble de 2 millions, vous serez taxé sur votre
quote-part.
Donc il faut déjà y aller.
Mais plus votre résidence principale.
Plus votre résidence principale, sur lequel vous avez un abattement quand même de 30% pour la résidence principale.
D'accord.
Mais donc il y a une petite décote sur l'IFI, sur les SCI, mais sinon il n'y a pas d'avantages fiscaux sur les SCI à l'IR. Vous remontez votre quote-part de revenus fonciers ou, le cas échéant, de déficit, mais proportionnellement à vos parts. Donc il n'y a aucun avantage fiscaux en SCI, je précise bien, à l'IR. SCI à l'IS, là, pour le coup, il y a des avantages fiscaux, mais ça fera l'objet certainement d'une autre émission un jour, parce que c'est un régime complètement différent, la SCI à l'impôt société. Là, on parle bien des SCI à l'impôt sur le revenu. Donc il n'y a pas d'avantages fiscaux sur une SCI à l'IR. Voilà, vous remontez simplement vos revenus par rapport à votre quote-part.
Et en matière de succession, du coup ?
Alors, il n'y a pas, là aussi, c'est un peu une fausse idée, les gens ont parfois demandé des SCI pour la succession, il n'y a pas d'avantage en termes de succession pour les SCI, sauf, il y a un cas où ça peut être intéressant pour la succession sur une SCI, un cas très précis. Alors, je vous le fais court, est extrêmement résumé. Vous achetez, par exemple, monsieur, madame, les parents achètent un immeuble, on fait court, à 1 million d'euros. Donc en SCI. La SCI emprunte 1 million d'euros. Donc vous avez un actif qui est l'immeuble qui fait 1 million d'euros. Vous avez le passif qui est le financement de 1 million d'euros. Donc la valeur de la société, actif moins passif, c'est égal à
zéro.
Voilà, juste le capital social. Mettez un capital social à 1 000 euros. Donc, ce qui est intelligent à ce moment-là, il faut vraiment le faire tout de suite. Ce que les gens oublient de faire parfois tout de suite et après, au bout de 20 ans, ils se réveillent, mais c'est trop tard. Ce qui est intéressant, c'est de faire à ce moment-là, à l'amorce de la SCI, lorsque vous avez un passif, en l'occurrence un crédit important, c'est de faire un démembrement des parts sociale, c'est-à-dire de donner la nue propriété des parts à votre enfant ou à vos enfants. À ce moment-là...
Et vous conservez l'usufruit. L'usus, c'est le fructus.
Voilà, vous conservez les usufruits, donc les loyers, en l'occurrence, sur votre immeuble. Et donc, à ce moment-là, la transmission, elle se fait pour quasiment zéro, puisque la valeur de départ est de zéro, donc juste le capital social. Donc, vous n'avez quasiment pas de frais à ce moment-là. Ensuite, pendant toute votre vie, bah, vous profitez des loyers qui vous aident à rembourser le crédit dans un premier temps. Puis ensuite, lors de votre retraite, vous avez vos loyers qui rentrent, tout va très bien. Et à votre décès, l'usufruit départ rejoint la nue propriété. Et là, l'immeuble d'un million d'euros, il est passé avec
au travers des mailles du filet. Bon, après, il faut que ces enfants soient sympas.
Oui, bien sûr.
Parce que la nue propriété, on le rappelle, c'est quand même un vrai droit sur
un bien.
Si demain vous voulez revendre, je crois que sans l'accord du nue propriétaire, vous ne pouvez pas le faire.
Tout à fait.
Il faut avoir des bonnes relations avec ses enfants, ce qui est difficile à savoir
d'avance.
Oui,
ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et rien ne se passe jamais comme prévu.
Exactement.
C'est sûr. Donc il faut faire attention. Il faut des bons statuts là aussi. Hein, sur les statuts, la SCI aussi, on peut un peu verrouiller les choses un petit peu mieux.
Très bien. Alors, le temps file, Stéphane, malheureusement, parce que c'est hyper intéressant comme sujet. Comme on l'a dit, on refera une seconde émission sur l'IS, la SCI assujettie à l'IS. On va essayer de faire assez bref pour terminer sur ce chapitre de la SCI assujettie à l'IR. Donc, comme vous l'avez dit, pas d'avantages fiscaux ni en termes de succession, contrairement à ce qu'on peut penser. Mais on peut quand même, a priori, bénéficier d'une certaine souplesse en SCI, comme louer en meublé, par exemple.
Alors non, c'est le gros problème. Alors en SCI à l'IS, oui, vous pouvez, mais vous ne pouvez pas louer en meublé en SCI à l'IR. C'est impossible, puisqu'il y a tout simplement un conflit de régime.
D'accord.
Puisqu'en meublé, vous serez en BIC et en SCI à l'IR. Hier, vous êtes irrémédiablement à l'impôt sur le revenu, donc en revenu foncier. Donc vous ne pouvez pas, et c'est, je pense, le principal écueil de la SCI à l'IR, c'est qu'on ne peut pas faire de location meublée, qui pour le coup, la location meublée a beaucoup d'avantages en termes de fiscalité, puisqu'on a une fiscalité bien plus douce avec de la location meublée grâce aux amortissements notamment. Donc on ne peut pas faire de meublé sur une SCI à l'IR. Alors, il y a une petite tolérance, c'est même pas un texte, c'est un peu plus des usages. Il y a une petite tolérance pour pouvoir louer provisoirement 10% de ses recettes en meublé. Mais il faut que ce soit exceptionnel. C'est-à-dire que sur une année, si vous avez une maison entre deux locataires, vous pouvez la louer quelques mois en meublé. Pourquoi pas, ça peut passer. Mais il faut que ce soit exceptionnel. Donc, dans les faits, on ne peut pas faire de location meublée à l'IR. Donc ça, c'est une très, très forte contrainte. Et vous n'imaginez pas le nombre de clients que j'ai vus monter des SCI, acheter plein de studios et ensuite se dire « Ah bah tiens, on va faire de la location meublée. » Bah non, ça ne marche pas.
Et c'est aussi bien valable, on est d'accord, pour les loueurs meublés professionnels que pour les non-professionnels.
Oui, tout à fait. LMP, LMNP, professionnel ou pas, on ne peut pas faire de location meublée avec une SCI à l'IR. Donc ça, c'est une très forte contrainte.
D'accord. Donc si vous voulez faire du meublé, la SCI, c'est pas pour vous. En tout cas, celle assujettie
à l'IR.
Pour terminer sur ce débat de la SCI, du coup, on a fait le tour des avantages, on a fait le tour à peu près des inconvénients.
Juste une petite contrainte, effectivement, qu'on oublie souvent et qui est assez peu connue. Sur une SCI, à part si vous êtes sur une SCI strictement familiale, mais familiale vraiment avec épouse, enfant, il faut faire des baux de 6 ans. À vos locataires.
Hein, ça, on l'oublie, contrairement à 3 ans pour l'allocation.
Puisque vous êtes une société, donc vous êtes censé avoir plus de moyens qu'un simple pauvre particulier. Donc vous devez faire des baux de 6 ans à vos locataires. Donc déjà, 3 ans, c'est long. Alors 6 ans, on n'en parle même pas. Ouais. Donc ça aussi, c'est une forte contrainte. Bon, voilà.
Et est-ce que vous pouvez donner congé à vos locataires pour reprise personnelle? C'est autorisé en SCI?
Non. Sur une SCI, non, vous pouvez pas.
Donc vous n'avez pas les congés que peut avoir un propriétaire bailleur traditionnellement.
Vous n'avez pas les facilités d'un particulier, ouais, tout à fait, comme sur une SCI, oui, tout à fait. C'est comme si c'était une entreprise.
On considère que vous êtes pro.
Oui, tout à fait.
Très, très bien. Eh bien, écoutez, merci en tout cas pour ces éclairages. Est-ce que, avant de clore cette émission, on a une petite anecdote du mois?
Oui, une petite anecdote sur les SCI, parce qu'il y a un des avantages dont je n'ai pas parlé, parce qu'il n'est pas très glorieux, hein, effectivement. Mais c'est un avantage quand même, surtout, qui existe dans les petites villes, un peu où tout le monde se connaît. Il y a des gens qui montent des SCI pour rester cachés, hein, pour vivre heureux, vivons cachés parfois. Hein, on est aussi dans le pays de Proudhon, la propriété s'élevole. Eh ben, vous avez parfois des multipropriétaires, notamment dans des petites villes, qui n'ont pas forcément envie que tous les mois, leurs 3, 10 ou 50 locataires leur envoient un chèque ou leur fassent un virement à monsieur et madame Choupi, place du marché. Donc en SCI, ça rajoute effectivement, alors on peut aller chercher au greffe aussi pour savoir qui sont les associés de la SCI. Et j'ai même vu des particuliers qui étaient un petit peu connus dans leur ville faire des SCI en cascade, c'est-à-dire des SCI mm-hmm. qui étaient actionnaires d'autres SCI.
Pour pas qu'on les retrouve.
Pour pas qu'on les retrouve, pour pas qu'on sache même temps, que c'était le maire du village ou le médecin sur la place qui ne voulait pas. Voilà,
dans les petits villages, ça peut être problématique. Les gens parlent.
Oui, les gens parlent.
Peut-être moins problématique en ville.
Si vous êtes en SCI, il y a une petite notion effectivement d'anonymat qui est recherchée par certains, avec parfois des SCI en cascade, pour pas qu'on sache effectivement que c'était eux qui étaient propriétaires quand même de plusieurs appartements, plusieurs maisons, etc. Donc voilà, pour les adeptes du vivant, pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà, il y a aussi ce phénomène-là qui est pas très glorieux, mais enfin qui existe aussi, qui est quand même bien réel. Dans les grandes métropoles, c'est un petit peu moins le cas, mais dans les petites villes, effectivement, ça peut jouer. Donc il y a aussi cet aspect-là, un des avantages pas très glorieux de la SCI, mais dont il faut quand même parler parce que ça existe.
Eh bien, merci, cher Stéphane, pour toutes ces précisions. Franchement, c'était très clair.
Merci.
Je pense que nos auditeurs nous feront peut-être un retour, mais même pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de la SCI, je crois qu'on a à peu près saisi ce que c'était. Notre émission touche à sa fin, malheureusement. Merci d'être venu nous parler de ce sujet bien intéressant.
Avec plaisir.
Merci à la technique, merci à Théo. Merci à vous qui nous avez suivis. On se retrouve le mercredi 24 juin à 10h10 pour le prochain numéro de LMI, la maison de l'investisseur. À très bientôt sur Radio Immo.
La maison de l'investisseur, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.